Nous sommes toujours en direct depuis la première édition du Salon du Vin Bio qui se tient à la salle de l'atelier de Villefranche. Ça a commencé hier et c'est jusqu'à demain inclus. Alors vous pouvez, si vous êtes dans le coin, ne pas hésiter à venir vous faire une petite route des vins partout en France, là comme ça, en passant par l'Alsace, en passant par la Champagne, en passant bien sûr par le Beaujolais dans notre belle région, mais aussi en Bourgogne, dans les Corbières, ou Languedoc-Roussillon, enfin voilà. Vous pouvez faire le tour de France ici et venir à la rencontre des producteurs qui ont fait le choix de proposer des vins en bio. Et oui. Et c'est une première sur Villefranche d'avoir ce salon qui regroupe voilà, tout un tas de producteurs. Et surtout, ben voilà, de venir discuter, échanger, goûter. Parce que eh bien, le vin bio, c'est un autre goût. On en a parlé là avec les producteurs il y a quelques minutes lors du précédent plateau. C'est un autre goût, c'est une autre approche. Et il y a du caractère, il y a des choses. Et c'est bien de venir aussi discuter avec les gens qui produisent pour voir ce qu'il y a d'eux à l'intérieur de ce qu'il nous propose. Sur ce troisième plateau, on va plutôt s'intéresser un peu à tout ce qu'il peut y avoir autour de la démarche du bio, mais pas seulement aussi, tout ce qui fait qu'à un moment, on prend conscience. Alors on accueille avec nous sur ce plateau Pascal Fourneau, qui nous vient de Bourgogne, bonjour.
Bonjour.
Et qui est membre de l'association Phyto Victime, qui a été créée par Paul François, qui est connu pour être l'auteur du livre « Un paysan contre Monsanto », d'ailleurs dont on a entendu parler il n'y a pas si longtemps dans l'actualité, dans son combat contre Monsanto. Ouais. Alors on développera un petit peu plus dans l'émission les missions de votre association. Et puis aussi, ben voilà, vous qui avez connu la viticulture dite conventionnelle, mais qu'on pourrait finalement, qui a été un peu rebaptisée dans cette émission, la viticulture chimique, voilà, de dire aussi quels sont les effets pour ceux qui travaillent, pour ça, en tout cas dans cette viticulture, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient salariés dans les vignes. Avec nous aussi, à côté de Pascal Fourneau, il y a Jacques Adrian, qui nous vient de pas très loin, qui du Beaujolais Vert. Je voulais vous approcher vers votre micro. Voilà, qui vient du côté d'Ouin.
Je viens de Saint-Laurent-d'Ouin.
Et vous représentez l'association Déambule.
Déambule, oui.
Voilà, donc là, on a un peu ouvert. C'est pas forcément seulement sur la culture, mais vous êtes ingénieur agronome et vous vous êtes intéressé à la permaculture, à la biodynamie, c'est-à-dire aux autres approches qu'on peut avoir dans la culture et le lien avec la terre.
Je dirais plus la biodynamie que la permaculture n'étant pas une technique culturelle.
D'accord.
C'est un mode de vie et une éthique de vie, la permaculture. Je n'ai pas la prétention de la représenter ici. Je pense ne pas en être capable.
D'accord. Alors, on s'intéressera plutôt à la biodynamie. Voilà. Avec nous aussi, Jean-Marc Doucet, qui nous vient de... Jean-Marie Doucet, pardon, qui nous vient de Pommiers. Vous êtes... Alors, vous... Je vous ai réservé quelques questions plutôt voilà, sur j'annonce comme ça, sur la distorsion cognitive un peu qu'on peut avoir parfois en tant que consommateur d'accepter de consommer des produits que l'on sait qui ont été cultivés à l'aide de produits nocifs et qu'on s'autorise à mettre comme ça dans son corps des produits qui sont nocifs, tout ça parce que ben, tout le monde le fait et que c'est ce qu'on trouve le plus facilement et ce qui est le moins cher. On en reparlera en tout cas un petit peu tout à l'heure lors de votre présentation. Nous accueillons aussi Noémie Foulon.
Bonjour.
Vous êtes coach d'accompagnement et coach au changement. Voilà.
Voilà.
Vous nous expliquerez en quoi ça consiste.
Oui, avec plaisir.
Et en quoi aussi ça s'inscrit peut-être dans le changement aussi, dans la volonté.
Une démarche plus globale de bien-être. Oui,
tout à fait. Et on accueille aussi Dorothée Poisson, qui est cofondatrice du site Mon Quotidien Autrement.
Bonjour.
Un site internet.
Oui, tout à fait.
Pour vivre autrement au quotidien.
Exactement.
Plus en accord avec quoi alors?
Eh ben, en fait, nous, notre but, c'est de proposer des choses pour bousculer nos habitudes et consommer différemment. Et consommer mieux, de façon plus durable et de façon plus écologique. Le tout en se faisant plaisir. On n'est pas des ayatollahs horribles et en disant faut pas faire. Voilà.
Et enfin, on accueille Aurélie Barra de la maison de Champagne. J'aime bien parce que ça fait classe hein, de dire la maison de Champagne Barra-Masson. Alors, on s'est croisés hier déjà.
Oui.
Je vous ai embêté pendant une dégustation de deux potentielles clientes qui sont reparties un peu désarçonné par votre champagne, j'ai eu l'impression. Et vous êtes œnologue. Et oui. Justement, j'aimerais bien vous poser cette question du goût. Alors, quand on fait du bio, pourquoi le goût est différent et en quoi il est différent ?
Bonjour. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Alors, le goût est différent ? Oui. Parce que je pense que quand on fait du bio, on essaie vraiment de... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon but. On essaie de faire parler la nature. On essaie de laisser les vins s'exprimer tels qu'ils sont. Et voilà, on ne dose pas les vins. Alors, nous, c'est le champagne. On ne dose pas les champagnes. C'est vrai que ça peut désarçonner. Donc, ça a effectivement surpris ces personnes qui n'ont pas compris la démarche de laisser les vins s'exprimer, de travailler sur une année de récolte parce que l'année en particulier va donner des goûts particuliers, de laisser parler le terroir. On travaille toutes les parcelles séparément parce qu'effectivement, chaque terroir a un goût différent. Et le goût, je pense, qu'on retrouve dans les vins bio est plus pur. Pur parce qu'on essaie de laisser parler le sol, de laisser parler les raisins et de laisser parler cette influence de l'année.
J'ai l'impression que ce soit quand on est producteur de vin ou même quand on est simplement consommateur, enfin même peut-être n'importe quelle personne dans la vie de tous les jours, on peut se laisser porter par la vie un moment et puis faire comme les autres et pas trop se poser de questions. Et puis il y a ce moment où on commence à penser même contre soi-même ou un peu contre les autres et on prend conscience de certaines choses. On prend conscience peut-être que pour le témoignage qu'ont apporté les producteurs, c'est de... d'utiliser des choses qui sont contre nature pour produire ou de, comme je disais tout à l'heure pour amorcer une discussion avec Jean-Marie Doucet, peut-être de à un moment d'accepter comme ça sans réfléchir de manger ou de consommer des produits qui contiennent des pesticides, qui contiennent en tout cas des choses nocives. Comment on peut expliquer ça en fait? Comment on peut expliquer ce comportement que l'on a finalement de faire des choses qui vont contre notre bien-être et contre notre intérêt? Je m'adresse à vous, alors Jean-Marie Doucet, puis aussi à vous, Noémie Foulon.
Écoutez, allez-y peut-être.
Allez, je démarre. Qu'est-ce qui fait qu'on va, on va là-dedans? Sûrement une culture sociétale. Et que nos ancêtres faisaient comme ça, les grands-parents. Donc c'était une logique en fait de continuer de fonctionner ainsi. Et c'est vrai que maintenant, effectivement, quand on dit qu'on va boire du vin nature, c'est « oh ben là, ça a goût du fruit et puis tu vas avoir mal au crâne », ce qui est totalement faux et c'est très dommage. Donc en fait, je pense que l'idée, c'est de déconstruire en fait une culture qui a trop duré et de nous ouvrir à de belles choses et à cette façon de cultiver qui est absolument magnifique.
Jean-Marie Doucet.
Écoutez, je vais répondre d'une manière peut-être abrupte et... d'une part, je suis horrifié ou stupéfait de cette appellation agriculture conventionnelle. Je vous entends sans arrêt parler d'agriculture conventionnelle et l'opposer en somme à l'agriculture biologique, mais je me demande de qu'est-ce que conventionnel, parce que le fameux conventionnel qu'on veut nous faire admettre comme une chose naturelle et spontanée, en fait, c'est l'utilisation de produits chimiques au XXe siècle, et surtout dans la deuxième partie du XXe siècle.
C'est pour ça que très vite, on a glissé sur l'appellation viticulture chimique.
Oui, mais elle a rien de conventionnel, si vous voulez. Parce que pour moi, l'agriculture conventionnelle, c'est celle qui a été faite par les Romains, au Moyen-Âge, et au fil des siècles, etc. C'est celle-là qui est l'agriculture conventionnelle, plutôt. Enfin, moi, je trouve, si vous voulez, personnellement. Je ne comprends pas déjà cette appellation. Je trouve qu'elle est erronée. C'est un abus de langage. Et c'est une intoxication. De la même manière, on est intoxiqué, si vous voulez, par le langage.
Mais au niveau du langage aussi.
Oui, bien sûr.
Et au niveau des pesticides.
Oui, et bien sûr. Et de la même manière, quand j'entends parler de produits phytosanitaires. Alors, on nous apprend quand on est enfant ce qui est sain sanitaire. Vous voyez, alors on se dit produits phytosanitaires, c'est des produits qui doivent amener quelque chose de bon pour la nature, pour nous-mêmes. Or, ces produits phytosanitaires, ce sont uniquement des produits qui vont effectivement perturber la nature, perturber notre organisme, nous intoxiquer, etc., etc. Enfin, vous voyez, je trouve qu'il
y a
un abus de langage.
C'est important, les mots qu'on utilise, le langage.
Oui.
Alors, ce que vous nous proposez, c'est quoi? De les appeler les produits phytotoxiques, alors?
Exactement. Ça serait plus normal.
Et déjà, on reviendrait dans quelque chose de plus équilibré dans le débat.
Voilà, exactement. Bon, et puis, je prendrai la parole après, si vous souhaitez, sur d'autres domaines. Mais alors, vous demandiez comment se fait-il qu'on accepte, etc. Ben, vous savez, De Gaulle avait dit « les Français sont des veaux ». Non, Il semble que...
Après, je pense que ça, c'est pas... bon. Ça concerne pas seulement les Français.
Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, donc, disons que globalement, l'être humain est relativement bon. Et quand on a appris...
J'ai pas bien compris, vous avez dit bon.
Bon.
Ah,
bon,
j'avais
bon.
Compris autre chose.
Oui, oui, mais effectivement, oui, oui, mais vous avez tout à fait raison. Et effectivement, quand on a entendu dire qu'il faut manger comme ça, il faut acheter ci, il faut acheter ça, etc. Bon, on est plutôt docile parce que même si on est à une époque où effectivement il y a les gilets jaunes dans la rue souvent, le week-end, etc. On pourrait nous être gilets verts. Il serait, je crois, important que rapidement nous devenions gilets verts. Voilà. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être pas le temps de le proposer.
Ah, il y en a qui sont d'accord avec ouais. Vous. Hein. Vous avez un fan.
Et je crois qu'on devrait demander, si vous voulez, dans cette table ronde, par exemple, non seulement des mesures, mais effectivement aussi peut-être, puisque notre président nous a proposé des mesures, moi je trouve qu'on devrait demander la baisse de la TVA pour les produits bio.
Ah oui, ah oui.
Oui, on dit oui.
Voilà, bon.
Des produits plus sains pour tout le monde, des produits plus sains, enfin, je veux dire, une culture plus saine pour, voilà, pour laisser à nos enfants plus tard. Le sol revit, la vigne est belle, elle n'a pas besoin de produits chimiques pour être belle. Hein.
Mais alors sortons, si vous voulez, sortons un peu de notre petite sphère hexagonale. Est-ce que vous ne trouvez pas aberrant que, par exemple, en Afrique, il y a des tas de régions où il n'y a pas d'eau potable? Mais par contre, il y a un réseau très développé de distribution du Coca-Cola. Ça vous paraît normal, ça? Franchement. Bon, et là-dessus, on continue à vivre tranquillement, oui, etc.
Alors, et justement, comment on explique toute cette acceptation de choses qui sont contre notre intérêt?
Peut-être déjà, vous savez, la publicité, déjà, qui est à la télévision, entre autres, vous savez. La télévision pourrait être un outil formidable pour éduquer... pour enseigner, pour apprendre aux jeunes générations de vivre mieux que nos grands-pères ont vécu et de la manière dont nous vivons. Et ce n'est pas le rôle de la télévision. Actuellement, la télévision, regardez la moitié des films, enfin pas la moitié, les trois quarts des films sont des films qui sont agressifs, violents, etc.
Donc aujourd'hui, en tout cas, le système, il est comme ça.
Voilà, il est comme ça.
Il est comme ça et on pourrait effectivement faire l'analyse et dire tout ce qu'il faudrait changer. Mais comment on fait aujourd'hui, concrètement,
pour
organiser son autodéfense par rapport à tout ça?
La publicité a un rôle. Il faut peut-être que le bio accepte de faire un peu de publicité aussi, vous voyez.
Je crois qu'ils en font.
On en font, mais on n'a peut-être pas les moyens. Parce que, si vous voulez, derrière aussi... Derrière cette publicité, il y a forcément des forces vives, très importantes, liées à la finance. Je ne suis pas forcément opposé à la finance, parce qu'il en faut certainement, si vous voulez, une finance bien gérée. Mais, si vous voulez, quand on voit, par exemple, regardez, il y a des produits qui sortent encore, le Red Bull, par exemple. Alors, bien sûr, on va dire, le docteur Doucet, vous êtes venu là pour faire une publicité. Vous parlez du Coca-Cola, du Red Bull. Mais quand vous voyez aussi ces produits-là, qui sont maintenant, qui commencent dans certains milieux... sociaux en France à devenir d'une consommation courante des jeunes, c'est aussi une aberration, si vous voulez, je veux dire. Et tranquillement, on continue de vivre, à se lever, s'endormir, sans penser que ça peut être nocif pour eux, etc. Enfin, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je fasse mon discours...
But, c'est vraiment pas de faire d'échanger les uns avec les autres, justement, sur votre vision. D'ailleurs, Dorothée Poisson, qui est cofondatrice du site Mon Quotidien Autrement, le titre le dit, c'est au quotidien...
consommer différemment.
Finalement, parce qu'il y a toute la pensée, il y a tout ce qu'on peut penser, on peut analyser en profondeur les dysfonctionnements, mais... Là où le changement s'ancre et le changement s'incarne, c'est dans ce qu'on met en œuvre au quotidien.
Exactement. Et nous, le but, en fait, c'est de pas forcément ressasser ce qui est négatif et ce qui ne va pas, mais c'est de proposer des alternatives pour faire différemment, pour faire mieux, et essayer de pas nous culpabiliser les gens, parce que j'entends ce que vous dites, monsieur, mais il y a des familles où ils n'ont pas forcément les moyens, ou même les moyens intellectuels, de consommer différemment. Donc nous, on essaye de vulgariser et de rendre plus compréhensible ce qui est compliqué. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a développé, par exemple, ce petit guide que j'ai entre les mains, qu'y a-t-il dans notre vin ? Et on compare les différents labels qui existent actuellement sur le marché. Bon, ils n'y sont pas tous, parce qu'il y en a d'autres, mais bon, c'est un outil synthétique. Et on reprend de manière accessible au commun des mortels, qu'est-ce qu'un vin avec un label AB, un vin Déméter, un vin conventionnel. Et par exemple, là aussi, on a mis dans ce guide les vins raisonnés. Parce que si vous allez chez votre petit caviste du coin, il va dire « Ah, il faut acheter des vins raisonnés ». En fait, des vins raisonnés, ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de cahier des charges.
Et c'est tout et n'importe quoi. Du
complètement.
Voilà.
Donc c'est vraiment pour ça. Et en même temps, on a aussi mis un petit lexique à la fin pour expliquer aux gens les différents termes qui se cachent derrière et ce que ça signifie. Donc nous, le but de ce site, c'est de faire ça toujours dans la bonne humeur et dans le plaisir. Donc on a aussi des calendriers pour consommer les fruits, légumes et poissons en saison, parce que les poissons, il y a aussi une saisonnalité qu'on ne connaît pas forcément. On a aussi des guides pour se soigner par les plantes, quelles plantes. Enfin, on en a plein comme ça qu'on essaye de mettre en place, en plus d'articles sur le quotidien, de recettes de cuisine faites avec des produits locaux et de saison, et ce genre de choses. Donc c'est vraiment le but, c'est de donner des clés aux gens pour pouvoir consommer différemment.
C'est un accompagnement finalement pour quelqu'un qui sent cette distorsion un peu à l'intérieur de lui entre ce qu'il met en place au quotidien dans sa vie et sa façon d'être, de consommer, et ses envies. Des fois, il y a un grand écart, on le ressent. C'est parfois dur aussi à vivre.
Tout à fait.
Cet écart à l'intérieur.
Complètement. Et nous, on essaye de faire rentrer les gens dans une spirale positive, en fait. De dire, quand on commence à mieux consommer, ça entraîne des choses positives et on le fait de plus en plus, quoi. Donc, c'est vraiment notre but. Et jamais moralisateur et jamais... Enfin, faut pas, quoi. Sinon, les gens, ils adhèrent pas.
Jacques Adrien, oui. Ça vous fait réagir, ce que dit Madame Poisson.
Mais bien sûr que ça me fait réagir. J'ai l'impression, avec mon jardin, de faire de l'engagement optimistique.
Expliquez-nous.
J'explique. J'ai repris un terrain qui était une terre de vigne massacrée par des viticulteurs sauvages.
Normaux, qu'on pourrait dire normaux, entre guillemets.
Pardon ?
Normaux.
J'irai pas jusque-là.
Non, mais...
En 3 ans, j'ai multiplié la production par 2, sans arroser, sans travailler le sol et sans intrants du tout.
Alors, comment avez-vous fait, Jacques Adrien ?
Alors, je termine sur cette histoire d'engagement optimistique. Pourquoi est-ce qu'on consomme mal ? Parce que les lobbies nous foutent la trouille. Ils nous font peur. Et pour être normal, il faut consommer normal.
Comme les autres.
Comme les autres, comme tout le monde. Et l'engagement optimistique, c'est vraiment ça, c'est non. Je refuse cette sinistrose ambiante que nous ressentons tous en écoutant les nouvelles tous les jours, quoi qu'il se passe.
C'est une dissidence alors, c'est une dissidence que vous prenez.
C'est de la résistance.
La résistance.
C'est de la résistance. C'est je suis conscient d'un phénomène que l'on veut m'imposer pour faire vendre. Or, j'entends partout, on n'a aucun pouvoir. Mais si, le pouvoir d'achat. Il ne faut pas acheter n'importe comment.
Bravo.
Il y en a qui disent, on vote 3 fois par jour en choisissant ce qu'on met dans son assiette.
Chaque jour, je vote en faisant les courses.
En vous entendant ce que... Alors vous, Jacques Adrien, mais aussi... tous les autres participants et participantes du plateau, ce que j'entends, c'est que finalement, ces questions-là sont éminemment politiques. Je ne dis pas dans le sens politicien, mais je veux dire politique, c'est-à-dire c'est un choix que l'on fait à un moment.
Politeia, tout à fait.
De direction.
La chose publique.
Et on choisit d'aller dans une autre direction que celle qui est balisée.
Absolument. Absolument. Parce que on a tous notre clairvoyance, notre intelligence. Allez, c'est dit, on s'en sert. Et si on s'en servait ?
Mais c'est dur de se mettre aussi à contre-courant. Souvent dans les...
J'ai pas dit que c'était facile.
C'est pas facile, mais c'est... Je veux dire, Noémie Flon, vous qui êtes coach et qui accompagnez au changement, se mettre à contre-courant des autres, c'est dur aussi.
Vous
savez... Après, on écoutera votre aussi...
Oui. C'est effectivement pas simple. C'est le travail du coach, de tout accompagnant, de motiver la personne à lui dire que tout ce qu'elle fait, c'est bon pour elle. Effectivement, être engagé aussi politiquement, c'est de dire non, j'achète pas de tomates au mois de janvier. C'est de pas acheter de courgettes. C'est d'être. C'est effectivement très très politique et il faut avoir vraiment confiance en soi pour oser dire non. Et pour oser dire non, que ce soit de dire non, aujourd'hui j'en ai marre de cette vie-là et je veux changer, je veux faire un métier que j'aime, ou dire non, je ne mangerai pas de tomates au mois de janvier, et même au restaurant, ce qu'on nous sert, ce qui est pour moi assez scandaleux. Ouais.
Aurélie Barra.
Oui, moi je voulais rebondir là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas facile de sortir de ce qu'on dit, enfin de ce qu'on pense aujourd'hui normal, même en agriculture ou en viticulture. Quand on commence à aller vers la démarche bio, on nous prend pour des fous. Donc après, à un moment donné, on se dit, mais bon, nous on est passé au-delà, on s'est dit non, on veut, enfin, on sent qu'il y a des choses à faire, que voilà, la terre en a besoin, que nous on en a besoin. Donc on va travailler différemment, on veut faire des vins différents, des vins purs. Et mais il faut passer au-dessus du jugement des voisins. Parce que 10 ans en arrière, ils nous prenaient pour des dingues. Alors maintenant, ils reviennent vers nous en disant finalement, comment tu fais pour maîtriser ton herbe dans les vignes? Mais bon, je veux dire, on leur a déjà expliqué, enfin pas nous, mais les politiques agricoles, on leur a déjà dit, voilà, il y a des solutions, mais il faut le mettre en place. Et eux, non. En fait, c'est un manque d'envie. Ils n'ont pas envie de le faire, ils ne sont pas motivés.
Mais est-ce qu'il n'y a que le manque d'envie ou est-ce que parfois ça ne va même pas jusqu'à ceux qui ne veulent rien changer, essayent d'empêcher ceux qui essayent de changer ?
Ils ne se posent pas la question. Pour eux, ce n'est pas utile. Ils ne voient pas l'intérêt de travailler différemment.
Jacques Andrian, vous nous avez expliqué que vous, dans votre jardin et dans cette terre abîmée que vous avez... Restauré, vous avez travaillé en biodynamie.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
La biodynamie, c'est biologique, plus les influences lunaires, globalement, dont je ne suis pas persuadé à 100% qu'elles aient une efficacité absolue, mais ça fait 6000 ans que les Chinois font ça. Je me dis, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. S'ils l'ont fait, ça sert sûrement à quelque chose. Donc, je le fais. J'ai simplement constaté que là où je pratique ma méthode, que je revendique comme ma méthode, même si j'ai beaucoup emprunté.
Vous êtes approprié des choses et pour adapter à votre bout de terre.
J'ai rencontré pour la première fois dans l'année 70 un dénommé Jean Pin, qui faisait du compost de broussailles et qui cultivait des tomates de 300 grammes sur le Larzac sans eau. Je me suis empressé d'oublier tout ce que j'avais appris à l'école d'agro, mais vraiment, sauf quelques principes scientifiques incontournables. Parce que si je fonce sur Google pour avoir des renseignements sur la permaculture, on va me dire des bêtises, des fois, terrifiantes.
Alors, quelle est votre invitation quand on a envie de faire autrement, qu'on soit simple jardinier et amateur, ou qu'on veuille avoir une autre relation en tant que professionnel avec la terre que l'on cultive?
Alors,
quel est finalement le positionnement que vous prenez, Jacques Adrian?
Moi, j'ai choisi de faire des conférences dans mon jardin pour donner... avoir aux gens un résultat patent, probant. Je travaille avec une association qui s'appelle Face au Feu, qui travaille, elle, avec Pierre Rabhi, Terre et Humanisme. Je me mets en réseau avec des gens qui ont des résultats scientifiquement crédible. Mmh. On m'a dit sur Google, par exemple, faites donc des buttes forestières. Faites des buttes forestières, ça veut dire enterrer du bois à 30 ou 40 cm de profondeur dans la terre. Je regrette, mais du bois mort enterré à 30 ou 40 cm sous la terre fait une ammonisation et une méthanisation, c'est-à-dire qu'on produit de l'ammoniac et du méthane. Merde. Pardon.
Trop tard.
Trop
en
tard.
En direct.
C'est sorti. On empoisonne la terre, on détruit sa microfaune, parce qu'il faut savoir qu'une petite cuillère à café de terre de mon jardin contient plus de 7 milliards d'individus. Plus que la terre ne compte d'êtres humains. Et une pincée de ces cochonneries de phytosanitaires, entre guillemets, détruit tout ça pour au moins 6 mois. Mais ce n'est pas définitif, il ne faut pas être catastrophiste. Mais ça perturbe et les champignons et les bactéries, et les plantes privées de champignons et de bactéries ne peuvent pas s'en sortir toutes seules. Elles ne peuvent même pas synthétiser les matières qui constituent leur ADN avec simplement ce qu'elles puisent, elles, dans ce sol inerte minéral. Il y a besoin de vie dans le sol. Il est indispensable de mettre de la vie dans le sol. Les plantes n'ont pas besoin d'azote. C'est une légende, c'est pas vrai. C'est faux. Ça, c'est pour vendre des engrais. Uniquement, 100%. Je mets au défi quelque agronome que ce soit de me prouver l'efficacité de l'azote dans le sol pour faire pousser une plante. Et j'irai même plus loin, encore plein feu sur Google, le compost doit être suspecté selon la façon dont il est préparé. Il faut que ce compost soit fait à froid. Dès qu'il y a échauffement de la biomasse, ce sont les bactéries thermophiles qui se mettent en jeu et qui produisent, qui minéralisent, qui font des nitrates, des nitrites, des phosphates. Exactement. Je mets là encore au défi n'importe quel chimiste.
Quand je vous écoute, Adrien, j'ai l'impression qu'il faut être très pointu pour faire son jardin. Là, moi, ça me décourage presque là, parce que je me dis
on
peut faire plus de bêtises que de choses correctes.
Ce ne sont pas des bêtises. Simplement, si je fais un compost à chaud, je perds 60% de la valeur fertilisante de mon produit.
D'accord.
C'est pas gravissime.
Donc on met un produit plus inerte qu'autre chose.
Pas plus inerte, puisqu'il en reste 40%. Oui. Il est toujours beaucoup plus fécond que la terre. Mais quel dommage de se priver de la fraction, non pas minéralisée, mais humifiée. Les plantes n'ont pas besoin d'azote, elles ont besoin d'humus. D'humus. L'humus est un produit stable. Il ne bouge plus. Il fait intervenir, allez, un tout petit peu de science, mais 30
Alors,
secondes.
Vraiment 30 secondes.
30 secondes. Si2Al3 chargé électriquement moins, acide humique chargé électriquement moins, mais 7 milliards de bestioles en faisant caca font du CA. Plus, plus. Plus, plus, moins, moins. Agrégation de la terre en petites mottes, grosses comme du couscous, qui ne peuvent plus être dissoutes. Il n'y a plus de battance.
Et ça, c'est bien, alors.
Oui. Ah ben, c'est ça, le sans travail du sol. Ces bestioles ont travaillé le sol pour moi.
D'accord.
Mais je n'apporte pas des doses massives de compost. L'INRA a prouvé qu'avec du compost, les carottes contenaient plus de nitrites qu'avec des ammonitrates. J'ai participé à l'expérimentation. Je le sais. Voilà.
Très bien. Je vais vous proposer qu'on fasse une petite pause musicale avant de continuer nos échanges, et puis on s'intéressera plus particulièrement à l'association de Pascal Fourneau sur les phyto-victimes. Et on se fait une petite pause avec Amy Winehouse.
Joy, falling in love.
Amy Winehouse sur Calade avec Our Day Will Come, notre jour viendra. Et oui, peut-être qu'un jour, ce qu'on appellera l'agriculture et la viticulture conventionnelle, ce sera tout simplement celle qui est plus respectueuse de la nature et celle qui est surtout plus respectueuse de ceux qui consomment les produits de cette culture. Avec nous autour de cette table pour un débat très riche et passionnant, Jean-Marie Doucet, qui est docteur, psychologue et... psychothérapeute.
Psychothérapeute
et passionné de bio et de santé. Jacques Andrian de l'association Déambule. Avec nous aussi Noémie Foulon, qui est coach d'accompagnement au changement. Et Dorothée Poisson, cofondatrice du site Mon Quotidien Autrement, avec plein de conseils pour... Justement, mettre un peu plus de santé dans son quotidien. Nous accueillons aussi Aurélie Barra avec nous de la maison Barra Masson, qui est productrice de champagne et œnologue. Et aussi avec nous Pascal Fourneau, qui vient de Bourgogne et qui est représentant et membre de l'association Phyto Victimes, une association d'aide aux professionnels victimes des pesticides. On est en plein dans l'actualité avec votre association, avec son créateur Paul François. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles sont les missions de votre association et de ce que vous y faites?
D'accord. Donc l'association a débuté en 2011 avec Paul François, le président de l'association, qui vient de gagner le 11 avril contre Monsanto.
Celui qu'on a appelé le paysan qui défie Monsanto.
Voilà. C'est la troisième fois qu'il gagne, mais c'est pas fini.
Oui, parce que Monsanto
il fait appel à chaque fois. Donc ça fait 15 ans qu'il est en procès. Et donc l'association s'occupe des malades des pesticides. Il y a à peu près 300 dossiers. On a un avocat qui est à Paris, Maître Laforgue, qui gère les dossiers. Donc il s'occupe essentiellement des pesticides. Et de l'amiante aussi.
D'accord.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est difficile quand on est malade et qu'on a identifié que la maladie dont on souffre vient d'un contact régulier avec des produits phytotoxiques, de faire reconnaître le lien entre sa profession
et la maladie.
C'est très difficile en France aujourd'hui.
C'est très difficile. Déjà, il faut trouver la maladie qu'on a. Donc, ce n'est pas évident. Moi, ça fait 8 ans. On a trouvé la maladie il y a 2-3 ans grâce au professeur Belpomme à Paris. Donc je suis MCS, allergique à tous les produits chimiques, donc les pesticides bien sûr, il va de soi, donc les lessives, les parfums, l'encre, c'est tous des produits chimiques.
Donc votre vie forcément...
Ma vie a changé il y a une dizaine d'années.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Alors, monsieur Fourneau?
Ouvrier viticole. J'ai été ouvrier viticole pendant 30 ans.
En Bourgogne?
Voilà, en Bourgogne, la région Mercurée, on va dire.
D'accord.
Voilà, donc j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Et à cette époque-là, les tracteurs passaient et nous, on se retournait et ils nous arrosaient le dos.
Les enjambeurs l'oiseau.
Voilà, entre autres, oui.
Pour s'amuser.
Non, parce qu'on perdait pas de temps. On sortait pas de la vigne. Voilà. Donc on avait du produit autant que la vigne. Et on travaillait après dans la vigne. Et le produit était pas sec. Voilà. Et puis en sachant que les températures sont à peu près à 35 degrés, donc les pores de la peau s'ouvrent.
Oui.
Donc on récupère tout le produit.
Donc des expositions répétées à des produits.
Voilà, c'est ça.
Il n'y avait pas de conscience à l'époque que c'était dangereux ou...
Pas du tout, non. Non, parce qu'on délayait le produit avec un balai, donc on était en short, en t-shirt, et on avait du produit jusqu'au coude, et puis tout allait bien.
Pourquoi c'est si difficile de faire reconnaître que c'est cette multiplication d'expositions et la durée d'exposition qui provoque les différents troubles dont souffrent les gens qui ont travaillé dans les vignes, par exemple.
Pourquoi c'est difficile
à faire reconnaître?
Voilà, il y en a, c'est plus facile parce qu'ils ont des cancers. Donc les cancers, on sait que...
Encore que, c'est pas forcément...
Oui, c'est pas forcément. Mais voilà. Et moi, c'est plus difficile parce que j'ai été plusieurs fois à l'hôpital, bien sûr, comme tout le monde. J'ai été 4 fois. Mais ils ne m'ont jamais rien trouvé, bien sûr. Donc après, ça dépend de ce qu'ils cherchent aussi. Parce que le professeur Belpomme, lui, a trouvé en une demi-heure.
Est-ce que quand vous allez voir, par exemple, le professeur Belpomme, bon, il pose le diagnostic pour donner un nom au mal dont vous souffrez, mais est-ce qu'après, lui, il est en capacité d'en donner la cause?
La cause, oui.
Et en quoi, pourquoi ça n'est pas reconnu après, alors?
Parce que c'est une maladie qui n'est pas en France, on va dire. Qui n'est pas reconnue en France.
D'accord.
Donc c'est pour ça. Donc, voilà. Donc les traitements que j'ai par le professeur Belpomme, entre les analyses de sang, les scanners du cerveau qui m'ont trouvé que j'avais perdu 70%, parce que le cerveau n'était plus oxygéné comme il faut.
D'accord.
Donc tous ces, plus le traitement qu'il m'a donné, que je prends depuis 4 ans, me fait un petit budget de 4000 euros par an, à ma charge, bien sûr.
Donc qui représente plus de 350 euros par mois.
Voilà, hein, c'est ça.
Ce qui est quand même assez conséquent.
Oui, c'est conséquent. C'est conséquent, surtout quand on a perdu son travail.
Bien sûr.
Donc,
qu'on n'a pas de reconnaissance du coup de...
Pas de reconnaissance
en maladie. Du travail ou maladie du travail.
Maladie, voilà. Une fois qu'on ajoute tout ça, on perd beaucoup d'argent.
Oui.
On perd ses amis, plus personne vient nous voir. On perd tout, quoi.
Vous, quand vous avez commencé à être malade et que vous avez commencé à réfléchir sur ce qui vous était arrivé et que vous avez relu, j'allais dire, votre histoire professionnelle à rebours et que les choses ont pris du sens, qu'est-ce qui a changé aussi dans votre quotidien, autre que la maladie foie-vive, mais dans votre façon de percevoir le quotidien, le rapport à la nature, le rapport à votre alimentation, toutes ces choses-là? Est-ce que vous, ça a opéré des changements?
Des changements, pas spécialement, parce que déjà la nature... Où on est entouré de champs. Les vignes ne sont pas très loin. Non, ça n'a pas changé. On fait attention, c'est sûr. Mais de toute façon, dès que les traitements commencent...
Ça vient l'enfer.
Puisque tout à l'heure, M. Adrian, il a dit un gros mot, alors je vais continuer. Est-ce que pour les gens qui étaient vos collègues avant, en tout cas les gens qui étaient dans le même lieu que vous, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un emmerdeur de vouloir faire reconnaître que c'est à cause des pratiques de culture de la vigne que vous êtes devenu malade?
En emmerdeur, on ne va pas dire ça, parce que comme plus personne ne me cause, donc je ne sais pas si je suis un emmerdeur.
Oui, mais alors c'est pire. Enfin, oui. Déjà, si tout le monde vous tourne le dos et plus personne ne veut
vous
parler.
Voilà, mais c'est ça.
Ça veut dire que vous êtes celui qui vient révéler un scandale et un au niveau local, quoi.
Voilà. Oui, surtout que, je vais le dire, l'Assemblée générale de phytovictimes va se passer à Fontaine.
Donc à Fontaine... Donc,
à côté de Chalon-sur-Saône.
À côté de Chalon-sur-Saône.
Le 25 mai. Donc il y a notre président, Paul François.
D'accord.
Donc il y a notre avocat aussi, qui va parler de justement pour se battre, pour être reconnu en maladie professionnelle. Il y aura Parkinson, parce que c'est une maladie des pesticides qui a été reconnue en 2012 par Phytovictime, qui l'a mis dans le tableau. Il va y avoir d'autres associations qui vont parler de pesticides. Il y aura les coquelicots, qu'on parle en ce moment, qui seront là aussi. Mm-hmm. Donc ça sera sur toute la journée. Donc c'est un samedi, de 9h à 18h30.
Est-ce que vous, Monsieur Fourneau, vous avez l'impression que vos concitoyens, alors on a bien compris que ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous connaissent, ils vous ont plutôt tourné le dos.
Oublié.
Est-ce que vous avez l'impression quand même que les gens se sentent concernés par ces scandales-là? Est-ce qu'ils se sentent concernés aussi par les victimes? Ou est-ce que vous avez plutôt l'impression d'être... au milieu de gens qui font un peu comme les trois singes, quoi. Je veux rien voir, je veux rien entendre, je veux rien dire.
Un peu l'autruche. Des gens concernés, il y en a. Mais il y a beaucoup de personnes. Bon, je vais témoigner un petit peu partout. Mm-hmm. Hein, dans des salles des fêtes, dans des cinémas et tout ça. Donc, les gens qui viennent se sentent vraiment concernés, on va dire. Mais... on fait partie d'une autre association aussi, on a vu ça dans le Mâconnais, et qui avait des problèmes avec les viticulteurs à côté des écoles. Donc, oui, c'était les parents qui étaient vraiment concernés,
tout à fait.
Leurs enfants et tout. Donc on a assisté à la première réunion, il y avait, on va dire, une vingtaine de personnes. À la deuxième réunion, on n'était plus qu'une dizaine. Et puis à la troisième réunion, ben, on s'est retrouvé à quatre, quoi, en gros. Voilà. Donc les concernés, ça dure une quinzaine de jours.
Pas plus.
Oui.
Pas plus.
Même s'ils sont vraiment pris dans les pesticides, ça... Après, il faut qu'ils soient malades. Une fois malades, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Mais ça va être trop tard.
Ça va être trop tard ?
Oui.
Est-ce que c'est déjà trop tard, là ? Ou est-ce que finalement, les entreprises qui commercialisent les pesticides et tous ceux qui participent à ce système, ils n'ont pas tout verrouillé déjà ?
Non, le système va durer comme ça, je pense. Parce que c'est un chiffre d'affaires qui est tellement énorme qu'ils vendront toujours du produit.
Donc on finalement, le seul levier qu'on a, c'est comme disait Jacques Adrien, ce sont les citoyens, les consommateurs, en faisant le choix de ce qu'ils achètent
de
et de
changer,
ce qu'ils
mettent
dans leur assiette.
Oui. Voilà, c'est
ça. Il ne faut pas attendre que ce soit eux qui changent.
Oui.
C'est à nous de changer
c'est
dans
à
notre
nous de changer,
comportement.
Tout simplement.
Je vois que Naomi Foulon, elle dit oui, c'est le changement. Alors ça passe par l'individuel, c'est la prise de conscience collective
et
le changement individuel.
Bien sûr, et votre association, vous éveillez les consciences.
Oui,
donc
bah
effectivement,
oui.
Malheureusement, on ne connaît pas de très vieux vignerons, de très vieux viticulteurs. C'est étonnant.
Oui, c'est étonnant.
Très peu. Oui, aujourd'hui, c'est à nous on est des irréductibles gaulois. C'est à nous de changer la donne. Non, Monsanto n'est pas le roi et on peut faire bouger les choses, bien évidemment.
Je voudrais dire un petit mot aussi, parce que l'association, enfin comme moi, je vais témoigner aussi dans des lycées agricoles, viticoles, pour bien sûr parler avec les élèves. Bon, c'est vrai que c'est pas facile d'y rentrer, parce qu'il y a les profs. Sont pas toujours d'accord avec nous.
Il y a du lobbying dans les lycées agricoles.
Oui, c'est incroyable.
Si vous permettez, ouais. À ce sujet-là, je peux conseiller à nos auditeurs d'aller écouter sur le site de France Culture l'émission Les Pieds sur Terre. Il y a une série de documentaires qui s'appelle Le Journal Breton, qui est réalisé par Inès Leroux, et dont il y a plusieurs épisodes, effectivement, sur les enjeux de pouvoir dans les lycées agricoles et les différents lobbying, que ce soit des syndicats agricoles ou des coopératives.
Alors,
ça se passe en Bretagne, mais j'imagine que c'est la même chose de partout.
Oui, on connaît un petit peu.
Et donc, vous,
là-bas.
Quand vous réussissez à rentrer dans un lycée agricole, quel accueil vous avez de la part des étudiants qui sont parfois des fils d'agriculteurs?
En moyenne, c'est des fils d'agriculteurs, oui. Donc, c'est au niveau BTS et tout. Mais c'est vrai qu'on est bien reçus. Mais il y a toujours 4-5 qui sont toujours là pour dire non, il faut qu'on produise, il faut payer les tracteurs, et puis c'est une fin de sens. Donc, il y en a toujours quelques-uns.
Certains.
Mais bon, ça fait rien, parce qu'au moins, on leur a expliqué qui pouvaient avoir des problèmes de santé plus tard. Donc je pense qu'ils vont s'en rappeler.
Ils n'ont pas l'impression d'être les esclaves du système, en fait.
Non.
Ils ne s'en rendent pas compte.
Non. Non, ils ne s'en rendent pas compte du tout.
En tout cas, merci Pascal Fourneau pour votre témoignage et puis aussi pour votre combat. Donc je rappelle que l'association que vous représentez aujourd'hui ici au Salon du Vin Bio, c'est l'association Phytovictimes, et que on peut peut-être aujourd'hui, la vitrine la plus simple, c'est d'aller sur internet. Le site, c'est à l'adresse www.phyto-victimes.fr, ou une recherche sur l'ami Google de Jacques Adrien peut permettre aussi d'accéder facilement.
Qui a beaucoup de bons. Hein.
Oui, non, c'était une taquinerie, Jacques. Jean-Marie Doucet, vous souhaitiez ajouter quelque chose au témoignage de Pascal Fourneau?
Oui, je voudrais apporter... Je ne m'entends pas, là.
Non, mais on vous entend, nous, allez-y.
Ah, vous m'entendez? Bon, je ne m'entendais pas. Dans... Oui, je voudrais apporter quelques observations personnelles que tout le monde peut faire également. À votre suite, et puis pour peut-être pour vous, je crois que c'est Aurélie, par rapport au goût, par rapport... voilà. Parce qu'effectivement, moi, je trouve qu'on est quand même à une zone charnière, vous savez, actuellement, parce que, sans parler, par exemple, de la pollution des nappes phréatiques en Bretagne, vous voyez, sans parler, par exemple, des cancers de la prostate en Guadeloupe, à la Martinique, vous savez, suite à la culture conventionnelle de la banane, eh bien, on est en train de reproduire la même chose sur notre sol, voilà, sur notre sol, si vous voulez, etc. Parce qu'actuellement, on peut constater quand même la disparition des insectes. Hein, sur nos pare-brises, il n'y a plus d'insectes sur les pare-brises. La raréfaction alarmante des oiseaux,
Bah forcément, si vous... les insectes disparaissent, donc les oiseaux disparaissent aussi. Hein.
Les plantes aussi, il y a une sélection des plantes. Par exemple, moi, dans mon jardin, je n'ai plus de sainçon commun, plus de mouron blanc des oiseaux, plus de trèfle, plus de pensée sauvage, parce que je suis entouré de vignes. Si vous voulez, il y a une sélection, etc., vous voyez. Il n'y a plus de plantes mellifères, enfin, elles disparaissent beaucoup, etc. Voilà. Et donc, il y a une sélection des insectes aussi, parce que si vous allez dans les vignes conventionnelles, vous soulevez les pierres, sous choc pierre, il y a des fourmilières. Il y a une concentration de fourmis dans les vignes conventionnelles qui est alarmante, mais les viticulteurs conventionnels n'ont pas l'air de s'alarmer de ça. Si vous voulez, il y a une sélection, vous voyez, des insectes aussi, etc. Enfin, vous voyez, bon, on pourra en parler longtemps. On peut s'interroger aussi sur la question des gazons actuellement dans les vignes. Je ne sais pas si vous avez vu maintenant, les vignes autour dans le Beaujolais sont toutes vertes parce qu'il y a du gazon dans les vignes. Mais curieusement, ces vignes sont très vertes. Et quand le tracteur déborde, et puis sur le bord de la route, etc., à ce moment-là, il n'y a plus d'herbe à cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, je suspecte personnellement, ce sont des herbes transgéniques qui ont été plantées, qui sont résistantes. Personnellement, pas... ah ben, je ne sais pas, moi, c'est ce que je pense personnellement.
C'est votre opinion, en tout cas.
C'est mon opinion.
C'est votre hypothèse.
C'est à vérifier, si vous voulez, j'en sais rien, parce que quand le tracteur recule sur le terre-plein de la route, à ce moment-là, toutes les herbes crèvent, alors qu'elles sont bien vertes dans la vigne. Ça pose quand même une question, ça. Enfin bref, je continue. En tout cas, vous avez eu raison, phyto-victime, parce qu'on a, le témoignage, si vous voulez, de beaucoup de personnes qui ont été victimes dans le Beaujolais. Il y a eu des cancers du cerveau. Il y a un nombre alarmant de Parkinson, mais personne n'en parle. Ça, si vous voulez, ouais. On s'en fout. Et personnellement, moi, je peux vous dire à titre personnel, quand ils ont traité les vignes autour de chez moi, on ferme maintenant les volets, etc. Et quand on sort de la maison après, 2 heures après, pour sortir, aller au portail, bien sûr, on sent la mauvaise odeur. Mais en plus, on sent une tension des muscles de la face. C'est-à-dire, il y a une contraction des orbiculaires, c'est des lèvres, etc. On sent une tension des muscles de la face. Ce sont des produits neurotoxiques. Et cette tension, elle dure 2-3 heures, si vous voulez. On peut le vérifier, ça, dès qu'ils vont traiter. Là, ils vont commencer le traitement bientôt. On va ressentir ces troubles, si vous voulez. C'est quand même désagréable et alarmant. Au niveau de ce qu'on mange...
On va conclure sur...
Oui, ben, rapidement, ce qu'on mange. Tous les légumes qui ne sont pas bio, vous avez de la flatulence, des éructations, je pense aux concombres, etc. Les gens considèrent que c'est normal d'avoir des éructations, des flatulences après le concombre. Quand vous mangez des concombres bio, vous n'avez pas du tout ces flatulences, vous n'avez rien du tout. L'amertume des légumes, le chou-fleur, les endives, etc., vous ne les avez pas quand c'est des légumes bio. Par contre, l'odeur du chou-fleur qui n'est pas bio, quand vous le cuisinez dans votre cuisine, il y a une odeur affreuse. C'est la vaporisation des produits chimiques. Quand vous cuisinez un chou bio, vous n'avez pas ces mauvaises odeurs dans votre cuisine. Ça, personne s'en alarme, tout le monde s'en fout, etc. Voilà. Je peux même aller plus loin. Mon chien, notre chien, il est habitué à...
Et on terminera là-dessus.
Oui. Eh bien, si vous voulez, quand on lui donne une nourriture bio, du pain bio, il le mange. Quand c'est pas bio, il ne le mange pas. Récemment, un viticulteur du coin m'avait donné des noix. J'en ai parlé après. Je lui ai dit, mais tes noix, elles n'étaient pas bio. Il m'a dit, bah oui, je les avais achetées. Je lui ai dit, oui, parce que mon chien, tu vois, il n'en a pas voulu. Quand ce sont des noix qui sont de l'Isère, qui sont données par mon frère, c'est des noix bio, il les mange. Tes noix qui n'étaient pas bio, il ne les a pas mangées. Vous voyez, même les animaux...
C'est le futur des certificateurs, d'avoir des chiens certificateurs, alors. Merci en tout cas, Jean-Marie Doucet. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les invités à cette table ronde. Merci à Jacques Adrian. Donc, je rappelle que vous êtes membre de l'association Déambule. Merci beaucoup aussi à Pascal Fourneau, membre de l'association Phyto Victime. Et on rappelle que pas si loin d'ici, à une petite heure et demie de route, il y aura l'assemblée générale de l'association dans la commune de Fontaine le 25 mai. Merci aussi à Aurélie Barra, qui représente la maison de champagne Barra Masson avec des champagnes de caractère et des champagnes purs. Et puis merci tout autant à Noémie Foulon qui est coach d'accompagnement au changement sur Villefranche. Et à Dorothée Poisson. Je vous invite à aller faire un petit tour sur son site et voir son guide. D'ailleurs, pour s'y retrouver dans les vins, il était très bien. Cette petite plaquette là est très très bien faite. Le site, c'est mon quotidien autrement.
Quotidienautrement.com.
Merci aussi à Mathieu Roard qui a réalisé cette émission en direct du Salon du Vin Bio. Et encore aussi tous nos remerciements aux organisateurs et organisatrices de ce salon. Et nous espérons vous donner rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition. Restez à l'écoute de Calade. Et pour rester dans le thème, nous on se quitte avec Marvin Gaye. Ben, Varun Gaye, vous avez bien compris ce qu'on avait choisi comme chanson. C'est celle qui parle de grapevine, des grappes de raisin. Bonne fin de journée à l'écoute de nos programmes.